Merci, et tout de suite, on déhausse les raquettes.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Diarrieto Keïta.
Dieudonné Nyanguna.
Christian Schiaretti.
Dieudonné Nyanguna et Diarrieto Keïta, vous portez sur la scène de la colline à Paris la voix hybride de l'écrivain congolais Sonny Laboutensi et de vous-même, Dieudonné Nyanguna, dans une rencontre entre le théâtre de la question et celui de la guérison. Christian Schiaretti, vous êtes viralement atteint par la tragédie grecque depuis vos 14 ans. Vous mettez en scène celle de la décolonisation écrite par Césaire au Théâtre des Gémeaux à Sceaux du 22 février au 12 mars. Ensemble, ce soir, c'est la rencontre de deux langues déchaînées qui osent regarder l'histoire et offrir à l'homme noir un avenir en serrant les dents.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
La culture sert à tout, même à aimer les coups. Un fait culturel imperceptible, comme disait Proust, et donc d'importance, enfin pour moi et je crois pour l'un de nos invités de ce soir, Dieudonné Nyanguna, vient de se produire. L'édition en DVD et Blu-ray, plus de 40 ans après sa sortie sur les écrans, d'un film injustement oublié, La Vengeance du Dragon Noir, aussi connu sous le titre La Mort de Bruce Lee, ou encore Le Dragon Noir venge la mort de Bruce Lee, bref, un film de kung-fu, me direz-vous. Eh bien, c'est encore mieux. C'est un film d'exploitation, entendez, spectaculaire, commercial et complètement fauché, appartenant au sous-genre riche en onomatopée de la Bruceploitation, autrement dit, exploitant à mort le filon de la mystérieuse disparition du petit dragon en 1973. Le dragon noir, dans ce film, c'est Ron Van Cleef, un athlétique et charismatique enfant de Brooklyn, portant coupe afro et généreuse roue flaquette, qui se rend à Hong Kong pour tenter de résoudre l'énigme, à grands coups de tatane et autres prises de Jeet Kune Do. L'occasion de rappeler ici quelques-unes des théories qui circulent toujours quant au décès de Bruce Lee à 32 ans. A-t-il été assassiné par les triades, overdosé à l'insu de son plein gré, victime du cri qui tue, voire de l'écrasement de son cœur par ses propres muscles surdéveloppés? Ne comptez pas sur moi, ni sur le film d'ailleurs, pour vous le révéler. Parce qu'au vrai, le plus important dans un bon film d'arts martiaux, ce n'est pas son intrigue policière. Si l'on en croit le dramaturge Bernard-Marie Coltès, qui se disait fasciné et ravagé par Bruce Lee, la vérité c'est que, je cite, « ce sont les bons films de kung-fu qui parlent le mieux de l'amour ». Alors que les films d'amour non seulement parlent connement de l'amour, mais en plus, ils ne parlent pas du tout de kung-fu. Trêve de confiserie, de Black Dragon's Revenge est désormais disponible en Blu-ray et DVD chez The Film Detective et les écrits de Coltès sur Bruce Lee sont rassemblés dans Prologue aux éditions de Minuit. Dieudonné Nyanguna, une question pour vous, donc pour commencer, parce que à Brazzaville, où vous travaillez, où se tient chaque mois de décembre, votre festival de théâtre Mancina, jadis, les films de Bruce Lee étaient projetés au Vogue, à l'ABC, au Rex, ouais, ou au Star. Ouais. Et je voudrais savoir, voilà, avant qu'on parle du grand maître Sonny Laboutensi, qui est lui aussi un maître du kung-fu, quelle est la place, justement, du kung-fu dans votre art et peut-être en particulier dans votre jeu qui est particulièrement physique dans votre spectacle?
J'adore très bien les mantras du kung-fu, hein, parce que le fait de les avoir vus quand j'étais gamin, puis après jusqu'à la période d'adolescence, à un moment j'ai arrêté de les voir parce que je voyais beaucoup plus autre chose, puis je me suis rendu compte qu'il fallait quand même revenir à la chose, oui. Mais ce qui m'a fait revenir encore à regarder les films de kung-fu, parce que je préparais mon précédent spectacle d'il y a 3 ans, là, bientôt maintenant, le kung-fu, c'était aussi que la lecture que je me suis fait entre-temps des mantras évidemment bouddhistes, taoïstes, et surtout des textes de Lao Tzu, super intéressant, me ramène du coup à l'origine du kung-fu, dont il y a une espèce de sacralité poétique qui est très très intéressant sur la direction du corps, sur le contrôle de l'esprit. Mais on n'est pas dans le yoga, on n'est pas dans la mystique, c'est quelque chose de très très pratique sur la concentration, mais pas seulement la concentration en termes de on va faire du zen, mais non, mais la direction des énergies, la direction du regard. Alors c'est quelque chose qui est éminemment spirituel, parce que évidemment ça vient Ça provoque des choses à l'intérieur de soi, mais qu'on va extérioriser en passant par le corps. Donc, ce sont des opérations que j'ai trouvées vachement importantes. Et puis, il y a toute une littérature au niveau des formes qu'on va exploiter à partir du corps qui est incroyable. C'est-à-dire la grue blanche, les sept montres religieuses, le tigre bleu de l'Euphrate. Alors, des techniques sont incroyables. Le serpent vert, le mamba jaune. Attends. Quand on lit le plus grand mantra, celui qui explique complètement la naissance du Tai Chi, c'est incroyable comment il dit ça. Le dragon se soulève. Avancer et sept étoiles. C'est complètement incroyable. Oui, fermeture, certes porte. Le coq dort debout sur une patte. Alors, t'as tout un ensemble de... Ça paraît comme...
On dirait des messages de résistance sur Radio Londres aussi.
Lâchés comme ça, mais c'est toute une poésie au fait. Imagé, plein de couleurs, plein d'images, mais plein de sens. Après, tu décortiques à l'intérieur. Il y a toute une écriture, il y a toute une image, il y a toute une danse. Et puis, il y a tout un sens assez poétique... qui est vachement intéressant. Alors, quand ça m'a ramené, évidemment, vers cette lecture-là et la recherche que j'en ai fait, en osmose complètement avec mon passé, où je regardais ces films-là, qui m'ont influencé en même temps que mon père, insistait pour que je regarde Fernandel, et que je regarde La Nouvelle Vague, et que je regarde tout l'Akira Kurosawa, après on finit avec un bon Charles Bronson, et dès que mon père se barrait, j'étais avec les potes pour regarder le kung-fu, regarder Jackie Chan et Bruce Lee et Sam Wong, et quand mon père revenait après, dans la bibliothèque, pour lire, évidemment, Marcel Proust, alors c'était génial. La composition de toutes ces choses-là a fini par m'emmener au théâtre, où on retrouve qu'à un moment, chaque chose va parler à son endroit, mais dans un même ventre. C'est-à-dire, ça fait un même ventre, il y a le cœur quelque part, l'estomac là, le placenta, l'intégral, mais tout ça est constitué, tout ça c'est dans un même ventre, qui sera donc ce ventre de Dido, avec un bout de kung-fu là, un bout
Dido,
de choses là.
Dido, c'est votre surnom.
Et évidemment, dans ce ventre, tel que je suis en train de parler des choses, hein, pour dire qu'il y a
ceci, il y a cela, en même temps, ouais.
Elles ne sont pas simplement séparées, non. C'est-à-dire, chaque chose se nourrit d'une autre, chaque chose se nourrit d'avec l'autre, se compose et compose l'autre. Évidemment, comme tout l'art du kung-fu, comment on part de la grue blanche pour sortir, évidemment, le tigre rouge ou le dragon qui se soulève, le coq dort sur une patte. C'est un ensemble des mouvements qui va finir par raconter une histoire.
Dieudonné Nyanguna, vous étiez effectivement dans cette bibliothèque enfermée à devoir faire des fiches de lecture pendant ce temps-là, finalement. Vous faites autre chose. Vous mettez, entre autres, à écrire du théâtre. Et puis, donc, on le sait maintenant, vous êtes habité par les mantras de Kung Fu. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là du côté de Christian Schiaretti? Puisque si on replace dans vos années de jeunesse, je sais que vous, donc, vous dévorez, on l'a dit, viralement la tragédie grecque, que ce soit Eschyle, Sophocle, Euripide. Ensuite, vous aurez un autre virus qui est celui de la philosophie avec Deleuze, Lyotard, Badiou. Donc, qu'est-ce que vous retenez de ces années, alors enfermées de votre plein gré, je crois, devant les livres et de ces mantras?
Moi, j'avais aucune obligation de lecture parce que mon père savait pas lire. Donc, c'était des lectures clandestines. J'ai jamais eu de chambre, par exemple. J'ai vécu dans un milieu très pauvre. Et j'avais un placard. Je me mettais dans un placard et je lisais dans un placard à partir d'une naïveté totale. C'était, étant d'une famille totalement inculte, j'avais une notion un peu fermée du savoir. Je pensais qu'on pouvait le globaliser. Alors, soit je commençais par la lettre A et je lisais tout, relevant de la lettre A, soit je commençais dans une démarche un peu historique. Ce que j'ai fait. Donc, je suis parti des Grecs et j'ai pas dépassé les baroques. Les baroques espagnols, en plus.
Mais vous êtes quand même passé par le Moyen-Âge.
Ah bah, je suis passé par... Oui, j'ai une bonne culture.
C'est une bonne culture.
Après, j'ai
médiévale.
Fait un grand saut. Après, je me suis retrouvé avec les surréalistes. Mais en gros, j'ai eu une démarche un petit peu... voilà. Et puis, à côté de ça, il y avait les arts martiaux aussi.
Alors, du coup...
J'ai fait du judo pendant très longtemps. J'étais sur ceinture noire. Et j'ai même fait troisième en championnat de France.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans les mantras des arts martiaux aussi qui vous ont touché ou qui
nourrissent
votre théâtre?
La poétique dont parle Dieudonné, c'est une danse. C'est une danse. Et d'ailleurs, le combat n'est pas le plus intéressant. Ce qui était intéressant, c'était les randories, par exemple, c'est-à-dire l'intelligence avec laquelle je pouvais accepter la prise de l'autre. Et à partir du moment où je suis rentré en compétition, j'ai arrêté. Parce que la compétition ne m'intéressait pas. C'était ailleurs. Et de fait, je suis tout à fait d'accord, c'est éminemment littéraire.
Alors, le judo, c'est la voie de la souplesse. Un des enseignements de Bruce Lee, de ses fameuses répliques, c'est « Sois comme l'eau hein, ». Il faut apprendre à bouillir et aussi à se couler. Pour vous, Diarietu Keita, qui jouait donc chaque soir aux côtés de Dieudonné Nyanguna, il y a quelque chose du judo ou du kung-fu dans votre pratique d'actrice?
Je dirais oui, parce que moi aussi, j'ai été nourrie par ces films-là qu'on a beaucoup regardés chez moi, au cinéma. On y allait souvent.
Vous vouliez être The Big Boss?
J'ai toujours voulu être très, comment dire, forte, déjà, et j'avais envie de maîtriser. La maîtrise, en fait, des mouvements m'a toujours plu. Du coup, j'ai commencé par la danse. Moi aussi, j'ai commencé vraiment par avoir j'avais envie d'avoir une maîtrise de mon corps. Voilà. Et ça, c'est jusqu'à présent, je continue à travailler là-dessus.
Alors du corps et du baroque, il y en a dans chacun de vos spectacles, comme on va le découvrir ce soir.
L'avenir me tranchera.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Dans ce cercle culturel semé la potentie de Bakongo, la nuit où nous battons des tam-tams, circule le fantôme du grand prêtre, sonné lui-même. Son nom inscrit sur les murs nous rappelle les paroles du prophète. Fils, sois fort, qu'il vienne le jour, qu'il vienne la nuit, affaire de toi, que 10 000 tombent à ta gauche et 100 000 à ta droite. Ne crains rien, marche droit comme une pensée. Une odeur de gens ne se passe pas ici, comme une odeur de gens qui mal dansent. Dans ce cercle, une odeur du gibier, des brûlures, des filles sauvages, saccagent une obscénité entourée de tels alcool. Et nous fêtons, dansons, pâles au vent, chemises arrachées, rumba au rat, dans l'extase du grand maître et lenteur. Il n'est pas d'autre bacchanal dans ce Congo mania que la furie de mangeurs de grève, de buveurs de nuit. Des saltimbanques en jachère et des salopards en syllabé de la colère du grand frère ressuscité. Guitare, trophée et gomolo infatigable, luxure et sexualité à outrance. Poésie bouquant des bruits de la rue et en souvent des débats des francophonisés pour trouver la vertu du grand frère érigé sur le mur. Dans ce cercle, gloire aux hommes.
Vous êtes sur la scène de la Colline à Paris et profitez-en parce que ce sera jusqu'au 18 mars. Antoine m'a vendu son destin. Sony chez les siens, c'est chez les chiens, c'est votre et chez les siens aussi un petit peu.
Bah oui, c'est un jeu de mots. T'as bien c'est... compris. C'est Sony chez les siens.
Chez les siens. Qui sont un peu des chiens. Il faut le dire. Donc vous, c'est Dieudonné Nyanguna et Djariétou Kéta. Donc vous êtes ensemble sur cette scène où il y a une sorte de sculpture un peu totem, un peu cabane, où on voit des attrape-rêves dignes de Marcel Duchamp. Moi, j'ai pensé à ça. On a l'impression que vous attrapez les rêves avec des sculptures en filage qui sont accrochées à cette grosse structure. Et puis, vous êtes donc dans un véritable kung-fu avec la langue de la Boutancy, parce que il faut le rappeler, ce texte à la base, c'est un dialogue entre la Boutancy et lui-même, entre l'auteur et son œuvre. Et vous, Dieudonné Nyanguna, vous intégrez aussi votre texte et votre propre dialogue avec Sony la Boutancy. Donc je voudrais savoir comment finalement c'est une histoire de discussion à trois entre Sony, son œuvre et vous.
Je dirais Sony, moi et l'histoire, parce que je parle de Sony à travers son œuvre. Quand je prends Antoine m'a vendu son destin, cette belle pièce que Sony a écrite, lui-même peut-être qu'il ne savait pas qu'il était en train d'écrire son testament politique. Lui considérait qu'il a écrit une super belle pièce, qu'il avait montée à l'époque. Il a commencé la mise en scène en 85, puis il a fait venir Daniel Mesguich qui a terminé la mise en scène quand ils vont faire la première au Festival des Francophonies à Limoges en 86, oui. Et puis après, ça a été repris à Brazzaville avec Krimi Sakidji qui jouait le rôle d'Antoine. Le souvenir est resté à Brazzaville. Ce souvenir est resté à Brazzaville. J'ai vu les répétitions. J'étais gamin, je grimpais sur le mur. Il y avait des claustras comme ça, je guettais comment Mesguich les dirigeait. Puis on nous chassait. Puis on revenait, on greffait sur le mur. Puis après, ils sont partis jouer à Limoges. Et quand ils sont revenus, j'ai vu une partie de la répétition encore, puis la représentation au CEFRAD, au Théâtre National Congolais. Puis ça, après, c'est très resté dans les annales comme ça de l'histoire du Congo au niveau théâtral, je vais dire, comme une espèce de classique. Antoine m'a vendu son destin. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus quand je me suis approché de la matière. C'était la question Sony. La question Sony m'est arrivée à partir de les derniers moments de sa mort, quand j'ai vu comment il commençait à partir. Là, ça commençait à me poser des réelles questions.
En 1995,
Comment évidemment ce grand Bobola commençait à mourir en étant vivant. Ça, c'est très très violent qu'on meure en étant vivant. Tout en sachant qu'évidemment, il disait lui-même qu'il écrivait pour repousser à plus tard la mort de la vie. Pas la mort, puisque tout le monde va mourir, mais la mort de la vie. C'est-à-dire comment on peut rester vivant en étant vivant et non mourir en étant vivant. Ça, c'est une défaite de notre capacité à être humain, c'est-à-dire à forcer la vie à être. Et quand j'ai vu comment ça se passait, d'un point de vue politique, c'était dégueulasse les coups qu'on était en train de lui faire, d'un point de vue social, d'un point de vue sat, même le milieu des artistes était complètement dégueulasse avec. Alors, tu ne savais pas qu'est-ce qui était en train de se passer. C'est quoi cette forme de sorcellerie-là? Quand on dit sorcellerie, c'est-à-dire quelque chose qui ne disait pas son nom et on ne comprenait pas. On était dans un incompris total, le genre de massacre qu'on était en train de lui faire.
Là, déjà, les chiens étaient présents en train de le décarcasser. La personne n'est pas encore morte, mais tu vois comment on est en train de le décarcasser. Et complètement à l'image du Congo de cette époque-là, où sorti de la fameuse conférence nationale, donc pour faire ce qu'on appelait l'appel à la démocratie, entre guillemets, alors rapidement, t'as, pendant la même période, mais vraiment à l'image du Congo, où toutes les différentes forces vives de la nation et différentes forces vives aussi de la coopération étant en train de décarcasser le Congo dans ce qu'on appelle la préparation des guerres civiles. C'est la guerre civile de 93, où on a vu la montée des enfants de la rue, où on a vu la montée des enfants soldats, où on a vu la montée de ça, la privatisation de tout, le déglingage de tout, le système de santé qui tombait, les écoles qui fermaient, et on a vendu toutes les salles de théâtre aux églises de réveil. C'était pendant la même période, et les gens ont commencé à s'armer, là les ninjas, là les cobras, là les obévillois, au nom de, d'une ethnie ou d'un groupe politique. Ils étaient tous en train de déchirer la matière, et Sony aussi en même temps était en train d'être déchiré d'un point de vue personnel, pendant que toute sa vie se déchirait. Et là, en relisant Antoine Mavoudou Son Destin, c'est exactement la situation qui se passait dans Antoine Mavoudou Son Destin, qu'il avait raconté une vingtaine d'années avant. Alors, je me suis rendu compte qu'Antoine, qui était homme politique, a monté son coup. Là, finalement, il se retrouve piégé dans son propre coup à Bracara, dont il ne sortira pas. Et Sony, qui a pris le choix de rentrer dans un parti politique de l'opposition comme député, et qui sera piégé par la même chose, et que le destin que va subir sur Sony, c'est complètement le même qu'il a fait raconter à Antoine, et c'est complètement ce destin-là qu'a vécu son pays pendant cette période-là. Donc, c'est là où, évidemment, le sujet, Sony comme sujet, m'a intéressé d'un point de vue de ma relation avec Antoine Mavoudou Son Destin. C'est-à-dire que si je montre Antoine, c'est Sony que je vais interroger. C'est Sony que je vais interroger à partir de son œuvre. Et là, je suis parti du coup écrire Sony chez les chiens.
Les chiens qui deviennent donc des chiens. C'est ça qu'on découvre donc à la colline. Et puisqu'on est avec Sony, je voudrais avoir votre impression, Diarié Toukieta, sur la langue de Sony Laboutansi, cette langue hybride, puisqu'elle est mélangée à votre regard et ce que vous interrogez chez Sony Dieudonné Nyanguna, puisque vous portez un certain nombre de séquences très fortes, et puisqu'on a écouté un petit extrait tout à l'heure, et il faut le découvrir sur scène, mais le final est assez slamé, accompagné de Cora. Enfin, il y a toute la musicalité finalement du texte qui s'est exprime. Vous, vous l'avez reçu comment, cette langue hybride où Dieudonné a un petit peu mangé Sony?
Alors moi, je vais dire que je porte le texte de Dieudonné. Sony, je l'ai découvert à travers Dieudonné. J'ai eu à le lire il y a quelques années, mais j'avoue que je n'avais pas vraiment compris. Et c'est vraiment en connaissant Dieudonné que j'ai découvert Sony. C'est d'ailleurs le premier texte qu'il m'a offert, c'est L'Antépeuple, et c'est quand il m'a proposé de jouer Sony chez les chiens que je l'ai lu, et que là j'ai compris en fait comment est-ce que Dido parlait aussi. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment pu...
Dido pour les intimes, Dieudonné Nyanguna pour le grand public.
Ça aurait difficile.
Bon, je prends les deux.
Et la langue?
Et la langue, je trouve que cette langue-là a une poésie. En tout cas, moi, la première fois que j'ai lu, j'ai pas tout compris. Mais ce qui est sûr, c'est que je sentais quelque chose. Et que ce que je sentais était tellement fort que j'avais besoin, justement, de porter cette parole-là. La musicalité dont vous parlez, quand on a eu à lire le texte, la musique n'était pas dessus. On l'a fait comme ça et la musique s'est rajoutée dessus. Mais cette musicalité-là, moi, je dirais, c'est de la poésie. Et c'est une poésie qui est, à mon sens, mélangé à une façon de dire le français qui est autre. Et cette façon qui est tellement belle et crue et vraie et juste, c'est ça qui me touche.
Alors, voilà. Pour simplement redéfinir un peu, faire une petite didascalie, cet Antoine m'a vendu son destin, qui est donc le point de départ de ce spectacle qui s'intitule Antoine m'a vendu son destin, Sony chez les chiens. C'est donc l'histoire de ce tyran, Antoine, qui décide de se faire enfermer volontairement pour déterminer qui sont ses amis et si son peuple l'aime véritablement. Voilà. Et il va aller de surprise en surprise. Et évidemment, au-delà, dans ce dialogue que vous organisez entre ce texte de Sony Laboutansi et le vôtre, Dieudonné Nyanguna, il y a toute une exploration de la nature humaine ou de l'inhumanité de l'humain qui se développe. Mais puisqu'on parle de la langue et du corps, il y a cette importance du corps dans l'interprétation que vous donnez. Mathilde évoquait le fait que ce final est dansé en particulier, mais il y a une très forte implication du corps tout au long du spectacle. Et Sony Laboutansi lui-même, il disait, quand on parle d'oralité, moi je réponds la choralité, avec le corps dedans, dans la voix. Et il y a cette expression de l'alphabet du corps dans votre spectacle, Dieudonné Nyanguna. Qu'est-ce que ça peut signifier pour vous dans votre interprétation, qui est donc très physique, vous l'ancienne danseuse et nourrie de kung-fu, Zariyatou Keïta.
Je vais dire que dans mon éducation, il est important de regarder, d'observer. Et je pense que le corps parle plus, justement. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir une poésie du corps. Et pour moi, faire théâtre, c'est pas... En fait, là, ce que je fais, même ce que je vais dire, surtout par rapport au fait que ça fait maintenant quelques années que j'ai découvert Dido, ben, je fais pas théâtre, je fais la vie, je joue. Mais le jouer, c'est pas aller faire du théâtre. Parce que je sais pas comment expliquer ça.
Oui, voilà. Bah, il le dit d'ailleurs, de toute façon, tout le monde est dans le théâtre. C'est entièrement. C'est Nila Boutensi, que ce soit voilà. Du théâtre ou le théâtre de l'existence.
Mais à cet égard, voilà. Dionéné Nyanguna. Il y a cette expression du direct et de la réalité. Vous parlez d'être dans la vie. Il y a ce dialogue entre vous et Sonila Boutensi où il est question de, non pas de produire un effet de réel, comme on dit parfois au théâtre, mais bien de proposer aux acteurs et à l'actrice, mais aussi aux spectatrices, aux spectateurs, une expérience du réel.
Une façon d'être là avec cette langue-là, avec cette parole-là, une façon sincère d'être là avec cette matière-là. Ouais. C'est-à-dire, je parle de cette matière, par exemple, qui est ce texte de Sony. La question, c'est pas simplement que je dise ce texte de Sony. La question, il faut que je réactualise le fichier en temps réel devant des spectateurs. Donc, c'est comme si je refaisais le rituel en temps réel. Refaire le rituel. C'est-à-dire, on refait le rituel réellement si on fait des incisions. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait l'action pour de vrai. Mais c'est-à-dire, c'est d'un point de vue où on convoque sa sincérité, sa manière d'être avec cette parole-là et sa manière de la donner aux gens. Comme si c'était, et maintenant, et pour la première fois... Mais la première fois de moi, quand je la croise, comment ça me bouscule? Et la première fois que je vous dis cette chose-là, en étant sincère, moi...
Il faut dire que c'est un spectacle qui bouscule. Hein.
Mais ton écriture... Enfin,
c'est avec question, Christian Scaretti.
Oui, elle est une partition pour toi ou est-ce qu'elle est une partition réinventée? Dans le moment où tu le dis.
Dans le moment réinventé, okay. Parce que il faut que je m'interroge pendant que je suis en train de le faire. Et en même temps, il faut que, quand je m'interroge, ça ne veut pas dire que je sois en doute pendant que je suis en train de le faire. Non. Il faut que j'éprouve la matière pendant que je suis en train de la faire.
Donc elle bouge.
Elle bouge à l'intérieur. Il faut qu'elle bouge sans cesse pour qu'elle reste pas figée, pour qu'elle soit très très vivante. C'est-à-dire que même la personne, le spectateur qui est en train de te regarder, faut qu'il sente qu'en fait il y a quelque chose qui est en train de lui arriver lui.
Ce spectateur qui est dans la salle dans un dispositif triangulaire, avec aussi, il faut le dire, le texte de Sonila Boutensi qui est distribué, qui est mis au centre, qui est posé sur cette cabane dont je parlais, cette sculpture, et que vous donnez tout autour des premiers rangs. Ça c'est pour l'image un peu que vous faisiez, que vous puissiez voir la pièce avec les oreilles, mais quand vous disiez elle, vous parlez de la langue pour la faire entendre un peu. C'est par exemple, nous venons du futur et d'ailleurs,
on y retourne
en cœur. On va entrer dans la nuit avec les gros mots du grand maître. C'est vrai que dans le rituel, la langue et son organicité, je veux dire, passe. Et forcément, Christian Scaretti, vous avez un rapport, vous dites tropical et organique avec la langue de Césaire. C'est comme ça que vous la qualifiez dans sa tragédie que vous montez. Donc, comment est-ce que vous aussi, vous avez essayé de faire parler l'alphabet du corps ?
Mais en suivant la langue. Au fond, la langue fait partie du corps. Enfin, ça serait complètement idiot d'imaginer que ce muscle qui nous permet de nous exprimer est coupé du reste. Quand je parle, je bouge. Alors, après, les langues ne sont pas les mêmes, évidemment. La langue française est une langue qui est assez droite et qui a un accent tonique par phrase. C'est pas la langue anglaise, c'est pas... On a une langue assez particulière. Alors, quand elle est confrontée à une origine caribéenne, en l'occurrence, qui plonge dans un lexique étonnant, mais qu'on comprend, moi, la dodonée visqueuse, je sais pas ce que c'est, par exemple, hein. Donc, elle arrive, nous, on l'imagine, donc le corps suit, parce qu'on imagine ce qu'est une dodonée visqueuse. Donc, le texte lui-même, qui est plongé dans l'humidité caribéenne, fait fleurir le corps, c'est normal, ça suit. Mais en plus, avec une équipe d'acteurs qui sont tous d'origine africaine, et qui amène une percussion. Je parle vraiment d'une percussion vocale très particulière. Parce qu'il y a une histoire.
Racontez le collectif burkinabé Bénéré.
On travaille avec un collectif et grâce au collectif, d'ailleurs, j'ai retrouvé quelque chose qui est tellement bien, c'est disparaître en tant que metteur en scène parce que c'est une équipe dans laquelle il y a aussi des écrivains, comme Aristide. Voilà. Il y a des écrivains, il y a des gens qui dirigent des festivals, il y a des gens qui s'investissent à égalité dans quelque chose qui est d'ordre de la pensée. Donc il n'y a pas d'hierarchie entre nous du tout. Donc je travaille véritablement avec eux. Et quand on a fait Congo avant de faire la tragédie, on a travaillé avec des langues africaines nombreuses. Là où nous, quand on parle deux langues, on a un diplôme, la réalité africaine, c'est d'en connaître au moins 4, 5 ou 6. Pour certains d'entre eux, ils parlent. Alors, il y a une oreille extrêmement, extrêmement douée, j'ai envie de dire, d'écoute, et une reproduction et une percussion qui m'arrive de la réalité culturelle de chacun des acteurs, qui enrichit la langue de Césaire, qui, elle, évidemment, est une prise de guerre. C'est-à-dire que c'est une langue coloniale qui arrive, c'est comme Kateb Yassine. On prend la langue et on la retourne, et en fait, la question n'est pas de l'assimiler, mais de la dominer. Et cette domination en fait une arme, et du coup, on la retourne. Et c'est ce que fait Césaire, c'est la polémique de Césaire avec Aragon. Hein. Aragon demande une langue maîtrée, un retour à la langue maîtrée, à un certain génie hein, de la langue, ce qui peut très bien se comprendre. Mais Césaire lui dit, c'est pas mon problème, c'est ton problème, toi, français, et même, je dirais, de blanc. Moi, mon problème, il n'est pas là. Je prends cette langue et je la réinvente. Et il la réinvente avec la matière organique. De son pays, et cette manière organique forcément elle découle dans le corps. Enfin, moi j'ai même pas besoin de rien faire, ça vient tout de suite. Puis je suis ultra minoritaire en plus, parce qu'en face de moi j'ai des sonorités, j'ai des harmoniques absolument magnifiques que nous on n'est pas capable de faire. Alors ça veut pas dire qu'on travaille pas, hein, non, ça veut non, pas non, dire qu'on coup, essaye pas parfois non, d'être non, plus coup. Dans le masque et moins dans la gorge par exemple, parce qu'il y a une sonorité africaine beaucoup plus là ici là. Tenu comme
mais
ça.
Il faut sortir l'histoire de la gorge, hein, comme le dit.
Non, mais on joue avec tout cela, mais dans une joyeuse réinvention, ce que vous disiez. Finalement, la poésie, c'est quand la langue se souvient qu'elle a d'abord été musique.
Alors, joyeuse ou dangereuse?
Voici Sonny Labou-Tansi.
C'était un homme de poussière et qui continuait à regarder le soleil avec ses yeux de poussière. C'était des dents de poussière. Où dormaient des mouches de poudre et poussière de sourire tracées à la bombe.
L'homme, il faut qu'il explose, moi je crois. C'est l'explosion qui fait l'homme. Également, même ma poésie, c'est l'explosion qui est, si vous voulez, l'état civil de ce que j'écris. Et puis, il y a une autre situation. Je suis un ancien colonisé qui, d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, continue à l'être. Et donc, opprimé en quelque sorte. Mais le problème est que moi j'ai de la chance, je ne suis qu'opprimé, mais il y a en face de moi un oppresseur qui complètement sur le plan humain est désorganisé, est désorienté, et je crois que j'ai la possibilité de lui dire, écoute, ce que tu fais là, bon, je t'envie pas dans cette situation là, parce qu'il est plus facile d'être victime que bourreau.
Sonny Labou-Tansi au micro de France Culture, c'était en 1982, et qui évoque à la fois l'explosion qui est au cœur de sa langue, au cœur de l'homme, selon lui, et puis sa position d'ancien colonisé, plutôt du côté de la victime que du bourreau. Est-ce qu'il n'y a pas un écho, comme l'écho d'une explosion d'ailleurs, avec cette tragédie du roi Christophe signée Aimé Césaire, que vous présentez, que vous mettez en scène au Théâtre des Gémeaux à Sceaux jusqu'au 12 mars, Christian Scaretti, après l'avoir créé au TNP de Villeurbanne, que vous dirigez, avec cette idée de l'explosion, bien sûr, les explosions des barils de poudre quand Dessalines et les Haïtiens en lutte, eh bien, prennent par la force l'indépendance d'Haïti en 1804, et puis être du côté, voilà, des victimes des bourreaux, c'est plus compliqué que ça encore.
Oui,
quand on parle d'Haïti,
oui,
et de
moi
cette tragédie
vue par Césaire. Je trouve que c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, non. La question qui est posée par la tragédie, c'est la question de l'orgueil sans vanité. Voilà. Le personnage de Christophe, qui est un dictateur potentiel, bien évidemment, qui veut le bonheur de son peuple, mais plus que son bonheur, sa dignité, il l'impose au bâton, il l'impose à la force. Bien. Alors, ça peut devenir un personnage absolument épouvantable, ce qu'il est. Enfin, il tue un type à coup de canon parce qu'il dort, donc on peut pas, bien sûr. Mais là où il y a une rédemption, c'est que l'orgueil qu'il revendique n'est pas pour lui. C'est pas une vanité. C'est un orgueil national. C'est-à-dire qu'il cherche à trouver, il cherche à créer une nation là où il n'y a rien. Alors évidemment, c'est un écho pour Césaire à la décolonisation. Et qu'est-ce
oui,
qu'on
c'est
fait
écrit
après
en 63.
C'est ce qu'il y avait déjà dans la saison au Congo et dans la tragique histoire de Lumumba. Oui, c'est bien cette affaire-là. Et comment le faire dans l'autonomie? Nous, à l'intérieur, vous savez, Sankara, hein, qui réunit
Thomas Sankara,
qui réunit le peuple à Ouagadougou et qui dit impérialisme. Le peuple répond Abba, et derrière il dit paresse, et les gars disent Abba. La relation qu'il y a entre ce qui est à subir. Hein, par un peuple qui vit la décolonisation ou la néocolonisation, ce qui est vécu encore aujourd'hui, et l'autonomie qu'on revendique, elle passera par une mise au travail collectif et parfois un refus même de l'assistance. Et ça, c'est inclus à l'intérieur. C'est-à-dire que la dignité passe par le refus de l'assistance, c'est-à-dire une prise en charge par soi-même. Donc elle coupe les envies, vous voyez, un peu larmoyantes, un peu caritatives.
Être materné,
humanitaire. Alors le personnage qui s'en sort, évidemment, il se dresse, et de ce point de vue-là, il est politiquement incorrect de notre point de vue. Franchement, la façon qu'on a de dire... d'appeler à la décence des peuples qui cherchent leur émancipation est quand même très fortement hypocrite et qu'il est bon de rendre au peuple leur destinée. C'est ce que fait Christophe avec toutes les ambiguïtés de Christophe. Il n'empêche que la citadelle qu'il a fait construire et qui ne servait strictement à rien fait aujourd'hui partie du patrimoine mondial de l'humanité et que c'est une pierre indépassable dans la mémoire haïtienne. Et que cet effort-là, il l'a tendu. Alors évidemment, les moyens qu'il utilise, ils font froid dans le dos, mais...
Mais c'est vrai, il faut le rappeler que dans cette tragédie du roi Christophe, il a à charge d'inventer un modèle. On dit une nation ne se crée pas dans la langue des Césars, mais justement lui, il essaye de le faire. Et c'est la première nation noire libre. Il y a cette formule des nègres qui ont la main sur l'avenir. Voilà ce qu'écrit Césaire. Et il dit que pire que les esclavagistes sont les philanthropes qui ne veulent pas faire la distinction entre blanc et noir. Et donc c'est là qu'il affirme le nègre. Et justement, moi je trouve que au-delà de ce que ça dit, évidemment, de la séquence de décolonisation au moment où écrit Césaire, au-delà de ce que ça peut dire aussi de l'histoire haïtienne à ce moment-là, qu'est-ce que ça dit en ce moment de la fragilité démocratique et de la situation dans laquelle sont les peuples. Il y a une portée universelle, moi, qui m'a fait penser à Joël Pomera dans Ça ira, fin de Louis, sur qu'est-ce qui fait que des hommes, à un moment, peuvent poser les bases d'un régime démocratique, quoi. Est-ce que pour vous, ça appelait aussi quelque chose qui touche la France aujourd'hui, qui touche l'Europe?
Elle nous touche, mais nous, on est un peu usés. Elle touche beaucoup ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Ça pose beaucoup la question de ce qui s'est passé après le printemps arabe, ou ce que nous avons vu ou voulu voir dans ce qui se passait au Moyen-Orient. Et dans tout ce qu'on porte comme responsabilité par rapport à la décolonisation ou la néocolonisation qui est en train de se faire. Et puis, notre rapport à l'autre. Moi, j'ai dit à mes camarades que si on était frères, c'est parce qu'on n'était pas jumeaux. C'est-à-dire que si on est frère, c'est parce qu'on n'est pas pareil. Si on part sur l'idée qu'on est pareil, on se gourre complètement. Et c'est ce que Césaire appelle l'inégalité de sommation. Ça, je l'aime beaucoup. C'est-à-dire que nous, on est sommés de notre effort. Et ce qui est une grande différence avec ce que nous vivons. On vit dans un luxe, y compris nos contradictions. Il y a des situations de survie, il y a des situations d'agissement dans lesquelles nos catégories morales, à mon avis, ne doivent pas entrer. Alors, encore une fois, elles peuvent tomber sur l'horreur ou sur le difficile. Après, il y a deux époques, quoi. Il y a l'époque héroïque. Sankara est mort à 38 ans. On ne sait pas derrière ce qu'il serait devenu. Alors, il nous reste de Sankara le mouvement magnifique. Alors, est-ce qu'on milite pour le mouvement magnifique? Qu'est-ce qu'on devient quand on prend en charge les choses? Bon, j'en sais rien, mais nous, on n'a pas regardé. Et Christophe raconte ça, hein. Il y a une marche épique, c'est la prise du pouvoir. Alors, celle-là, elle est belle, vaut mieux être le Tché que fidèle. Et puis après, il y a la gestion de l'île. Et là, on devient fidèle. Qu'est-ce qu'on fait?
On va y revenir. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture. À suivre, la tragédie du roi Christophe, signée Aimé Césaire et mise en scène par Christian Sciaretti. Et toujours... la rencontre entre Sonny Laboutancy, Dieudonné Nyanguna et Darié Tou Keïta.
Ping pong. La culture sans limite.
Dans l'histoire des révolutions, il y a de folles journées où tout a basculé. C'est ce qui s'est passé dans la petite histoire de Molly Birch qui un jour, à Austin, au Texas, a réussi soudainement, en 24 heures, à poser les bases vocales et textuelles d'un disque que jusqu'ici, elle ne s'autorisait pas à écrire. Je n'avais pas l'assurance d'écrire, raconte Molly, fille d'un écrivain qui pesait lourd comme une ombre. Elle a finalement réussi à s'en affranchir grâce à la rencontre avec Dan Duzinski de Cross Records. Ça donne le disque d'une nouvelle génération de songwriters américains porté par Molly Birch. Please be mine.
Seem awfully quiet. I can see it in your eyes. You're wanting to be somewhere where you feel more alive. They say the heart grows fonder with every step you take. But as you move away from me, I feel my mind.
daybreak. Where are you gone? Where have you been today? Will you be back tomorrow? Will you be back to me someday? I could be your dream girl, your hope.
Des chansons qui racontent l'amour, la perte, la solitude. C'est vieux comme le monde et comme la soul, mais c'est transformé par Molly Birch, influencé par les Everly Brothers et Sam Cooke pour ce premier disque, Please Be Mine, qui vient de sortir.
Ping pong, la culture sans limite.
Oh, yeah.
Roi et un président de la République, forcément, ça se bouffe le nez.
Et si ça se bouffe le nez, ça fait de bons noms de coq de combat.
L'essentiel est de comprendre la situation et de connaître les personnages dont les coqs portent les noms.
Qui c'est Christophe?
Qui c'est Pétion?
Tout notre rôle consiste à vous le dire.
Dans l'île de Haïti, jadis colonie française sous le nom de Saint-Domingue, il y avait au début du 19e siècle un général.
Noir.
Il s'appelait Christophe.
Henri Christophe.
Henri avec un I.
Il n'avait pas commencé par être général.
Il avait été esclave, plus particulièrement esclave cuisinier. Il prit une part éminente à la lutte pour la libération de son pays sous la direction de Toussaint Louverture.
Toussaint! Toussaint
Louverture!
Allez, Christophe! Allez, Christophe!
La tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire, présentée au Théâtre des Gémeaux à Sceaux, dans une mise en scène de Christian Scaretti jusqu'au 12 mars. Ce roi Christophe, c'est donc cet esclave cuisinier devenu général au moment de l'indépendance arrachée d'Haïti en 1804. Et cet Henri Christophe qui va devenir roi et régner sur le nord d'Haïti entre 1811 et 1820. Césaire, en 1963, en fait une tragédie. Et à votre tour, eh bien, vous en faites une mise en scène, Christian Scaretti, aujourd'hui, que d'aucuns qualifient de monumentale, et vous leur répondez non, une mise en scène barbare. Et en effet, on a une horde de 20 comédiens sur scène, 14 figurants, 4 musiciens, une chanteuse. On a les voix entremêlées du peuple, ce cœur, des héros, le roi, le fou, et puis la voix de l'histoire. Une sorte de tragédie barbare aussi parce que elle est diablement ambitieuse, comme l'était Césaire en 1963, au lendemain des indépendances africaines. Mais pour vous, en quoi est-ce qu'elle peut être noblement qualifiée de barbare, cette pièce, et votre mise en scène?
Parce qu'elle essaie de pas moraliser. Parce que tout simplement, j'essaie pas de donner de leçons. La seule leçon que j'ai voulu donner quand j'ai commencé mon aventure avec Congo, c'était une leçon donnée à ceux qui avaient dit que le peuple noir n'était pas rentré dans l'histoire. Et j'avais répondu à cela qu'il fallait à ce moment-là donner une leçon d'histoire aux blancs. Tout bêtement. Et nous, on est face, quand on joue aussi bien Congo que la tragédie, on est face à l'ignorance. Voilà.
Donc
à
c'est le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy.
Oui, absolument.
Mais Césaire lui-même avait invité le peuple noir à investir le champ de l'histoire.
Mais bien sûr. Mais on n'a surtout pas investi l'histoire africaine. Si on veut parler de, je sais pas, Savoyan de Brazza. Si on veut parler de la conférence de Berlin, interrogé, il y aura peut-être un Français sur 100 qui pourra vous répondre
1885.
Sur l'épopée de Savoyard-Brazza.
Non mais
Savoyard-Brazza, vous avez ouvert le Cercle de Vertige avec la première phrase du Cercle de Vertige, c'est celle-là.
Et l'assassinat de Savoyard à Dakar, enfin voilà. Dans le retour en bateau. Voilà, cette connaissance-là, on l'a pas. Et j'ai d'abord voulu tendre ça, c'est-à-dire avoir donc de ce point de vue-là et assumer totalement. Et c'est là où c'est barbare. L'agressivité, la tonicité de cette leçon qui est donnée. Et d'un appel à l'écoute, voilà, tout bêtement. Alors, aussi bien dans les données historiques que dans les données langagières. C'est-à-dire que la langue de Césaire est une langue réactive à la langue française dans ce qu'elle peut avoir, disons, de proprement français, en quelque sorte. Il la réinvente. Alors, de ce point de vue-là aussi, on est sauvage. On a un vocabulaire, on a un lexique.
La forme, c'est la civilisation. C'est un mot-clé de la pièce de théâtre.
Absolument. Et alors, en même temps, c'est une errance parce qu'ils cherchent la forme. Ils cherchent aussi bien une forme blanche, c'est-à-dire une imitation des rituels aristocratiques.
Par la royauté, donc.
Mais qu'une forme africaine
Christophe.
Aussi, africaine qui n'arrive pas. Vous savez, les Caraïbes, c'est une addition, c'est pas forcément un syncrétisme. On met les choses les unes à côté des autres. On va mettre l'un à côté de l'autre le catholicisme et le vaudou béninois. Et l'un à côté de l'autre, ce qui crée un truc incroyable. Caraïbes, c'est totalement fou. Hein. Alors donc, avancer avec ça et le jeter de ce point de vue-là, on essaie de pas conforter les esprits politiquement corrects. Voilà, j'essaie de ne pas avoir en face de moi une sorte de compassion, une sorte de charité qu'on adressait à cette problématique. Qui a sa noblesse et qui doit l'avoir. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai, on n'est pas civilisé.
Et en quoi, justement, dans cette pièce de théâtre, et d'ailleurs, comme dans votre Sony La Boutancy de Denis Nyanguna, c'est aussi l'idée qu'on a le droit de s'emparer de l'histoire. C'est-à-dire que c'est à la fois une leçon sur l'histoire caribéenne et sur l'histoire de l'homme africain pour le blanc, hein, c'est ce que vous dites, hein, vous cite dans votre texte, Christian Scaretti, mais en même temps aussi un appel à s'emparer de l'histoire, de la matière historique qui est présente dans la pièce de Césaire et aussi dans votre mise en scène.
Oui, bien sûr, et au-delà de ça, je dirais d'une mythologie qui est propre à l'Afrique. Enfin, il y a quand même, vous savez, ces Chinois qui ont fait des recherches génétiques pour prouver qu'ils n'étaient pas noirs d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait aussi des... Ça leur faisait très bizarre de se dire on vient de là. Et moi, c'est un mystère que Césaire dit. Dans Congo, il dit ça magnifiquement bien. Il dit, ici, après tout, n'a-t-il l'homme, n'est-ce pas une façon de se tenir debout, le front levé ou... C'est-à-dire, c'est ce mystère quand même, on vient de là. C'est-à-dire, il y a quelque chose, moi je le sens, c'est pas un continent expansionniste. En tant que tel, il n'y a pas eu des mandingues qui sont arrivés en 732 à Poitiers. Il y a quelque chose qui est là et c'est un mystère de l'origine. Et je pense qu'il y a un refoulé de l'origine.
Il y a beaucoup de tortillons chinois en ce moment.
Non mais oui. Non mais je veux dire qu'il y a un mystère propre et qui est presque dans un surmoi universel par rapport à ce continent et son mystère et le secret qu'il a de notre origine, de ce que nous sommes. Donc c'est non seulement s'emparer de l'histoire, mais au-delà de ça, du mystère, je dirais, que l'histoire a tendance à à résoudre, alors qu'il y a quelque chose de supérieur, voilà, que Césaire, en tant que poète, exprime merveilleusement bien.
Mais à propos de cette addition dont parlait Christian Scaretti à l'instant, culturelle aux Caraïbes, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans votre spectacle Dieudonné Nianguna. Antoine m'a vendu son destin, Sonny chez les chiens, qui est donc présenté jusqu'au 18 mars au Théâtre de la Colline à Paris, puisque à propos d'addition culturelle, il y a Xor à côté d'Antonin Artaud, Tupac et Robocop sont pas très loin de Mnouchkine, de Gabin, de Bronson dont on parlait tout à l'heure. Et puis il y a aussi, me semble-t-il, du Césaire, parce que Sonny Laboutancy, il a monté des pièces de Césaire dans son Rocado Zulu Théâtre.
La traduction du roi Christophe, oui.
Et Césaire qui disait « Je suis la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche », Sonny Laboutancy, il a écrit « Tu poseras ta bouche sur mon âme, je mettrai ma force sur ta bouche ». Il y a du Césaire dans votre sang et dans sur la scène.
Quand je commence à lire Aimé Césaire, j'ai 9 ans et demi, 10 ans. Je commence par Kaïda retour au pays natal. Je le dévore. Ça m'énerve parce que je voulais comprendre. Alors je sors, parce que je ne comprends pas, je vais prendre la tragédie du roi Christophe. Je le dévore, je ne comprends pas. Je vais prendre ce lait coupé fermement. Je dévore, je ne comprends pas. Je repars avec une tempête. Je le dévore, je ne m'en sors pas. Je vais prendre Et les chiens se taisaient. Je dévore, je ne m'en sors pas. Je vais prendre Moi la minère. Je le dévore et je ne m'en sors pas. Et un jour, je me suis arrêté comme ça, devant la bibliothèque du Centre culturel français, en grattant la tête, j'ai dit, mais faut que ce mec rentre en moi. Je le lis, mais je sens qu'il y a un truc, j'arrive pas à saisir. Et pendant que je me posais la question, j'ai regardé à côté, il y avait Discours sur le colonialisme, que je n'avais pas encore lu. Je lis Discours sur le colonialisme, donc de Aimé Césaire, et là, je comprends tout. Alors, je repars à Cahiers d'un retour au pays natal. Je l'ai gardé, pas à la main, dans la tête. J'ai d'abord pris le bouquin, je l'ai posé sur mon coussin. Je dormais, ma nuque sur Cahiers d'un retour au pays natal. Avant de dormir, je faisais ça. Donc, je prenais le livre. Je le récitais, je le fermais, je le déposais là. Et pour me lever à 4 heures du matin pour commencer à écrire, je reprenais le livre et je le relisais, même si je le connaissais par cœur. Jusqu'à ce que tombe la guerre de 97 au Congo, quand j'aurai 21 ans, et avec les obus qui sont tombés à la maison, qui ont tout brûlé, ma bibliothèque et tout, ce livre a été détruit là. Et quand, après je fuis la guerre à Point Noir, quand je reviens à Brazzaville en 98, tombe la guerre de 98, où je suis emprisonné en forêt par les ninjas et les cobras qui nous tuent, je récitais Kaïda retour au pays natal dans la brousse, comme ça, dans la forêt, en fuyant les bombes. Je sortais les gens dans les tranchées comme ça, et je leur disais la poésie de Césaire. Quand on m'arrêtait, quand on me torturait, je récitais Kaïda retour au pays natal, et je ne pouvais plus avoir mal. C'est ça qui m'a complètement hypnotisé. On pouvait me frapper, je ne ressentais plus rien dès que je rentrais dans du Césaire. Je suis sorti de la guerre, sauvé. À la fin, la guerre est finie. Je reprends le théâtre à Brazzaville. Donc, ce que je faisais déjà en forêt, parce que je faisais du théâtre avec du Césaire. J'arrive donc, je reprends ma compagnie à Brazzaville. Ok. On crée le festival avec des amis, tout et tout. Une amie me parle de Aimé Césaire. Elle me dit, donc, c'est Sylvie Duclos-Pomos qui est auteur, qui me dit, si tu veux, j'ai encore chez moi, parce qu'elle habite en Brazzanord, donc chez elle, elle n'avait pas eu des bombardements, je peux t'apporter un exemplaire de cahier d'un retour au pays natal. J'ai dit non, j'ai mon cahier d'un retour au pays natal, il est dans ma tête, il est dans ma vie. Il m'a tenu comment il m'a tenu et il m'a nourri comment il m'a nourri. Je ne veux plus avoir le papier entre les mains.
Et pour revenir à la pièce que vous écrivez et que vous mettez en scène, Antoine m'a vendu son destin, Sonny chez les chiens, chez les chiens décidément, c'est à la Colline jusqu'au 18 mars à Paris. Il y a cette formule d'Aimé Césaire qui sont contre les assassins d'aube, hein. Il faut se battre contre les assassins d'aube, et il y a quelque chose dans cette pièce de Césaire qui est ce combat pour l'avenir de Dieudonné Nianguna, puisque c'est aussi un truc qui vous a marqué chez Sonny Laboutancy.
C'est intéressant que vous parlez du combat, parce que tout à l'heure, comme on a évoqué le kung-fu au début, comme on a évoqué le kung-fu au début, c'est important de parler de combat parce que je vais raconter une autre petite histoire qui n'est pas une histoire, mais je vais la faire très très courte. C'est pas une histoire, non, je vais dire quelque chose qui va juste aussi rebondir sur le combat. J'écris pour un ami metteur, comédien du Burkina Faso qui s'appelle Etienne Miniungu, qui dirige un festival au Burkina Faso, le Récréatral. J'écris pour lui, m'appelle Mohamed Ali. On est dans le combat. On est dans le combat pas seulement parce qu'on va envoyer des coups de poing à la boxe, mais parce que on est en train de parler de Mohamed Ali. Donc ça veut dire quoi? Du combat pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, de son refus d'aller faire la guerre au Vietnam. C'est un combat humain. Je lui écris la pièce, la personne a bossé pour aussi savoir comment rentrer dans ma langue. Pourtant, il connaissait bien mon écriture, mais il n'avait pas encore articulé. Donc là, c'est la première fois qu'il rentrait dans mon univers, dans mon univers poétique. Et là, tu vois tous les travaux qu'il a fait pour rentrer très bien dans la langue et comprendre les mécanismes, les intentions, les couleurs, les odeurs, les guerres civiles du Congo qui sont à l'intérieur, la création de la vraie révolution qui doit venir, comme dit Sony, dans « On te m'a vendu son destin », cet ouragan de main levée qui dévaste tout. Mon peuple, qu'est-ce que tu es beau quand tu craches. Donc, il faut qu'il comprenne tout ça, où est-ce qu'il se tient le Dido, dans le Kung Fu, dans le Sony qu'il a mangé et qui lui a dit « Faut repousser à plus tard la mort de la vie par l'art ». Et pendant qu'il est en train de faire ses travaux-là, donc il va lire du ça, et puis je saute, je vous fais, mais vraiment, je fais exprès de vous faire la chose de coq à l'âne. La prochaine création qu'il a fait après, c'était quoi? Il s'est attaqué à Kaeda en retour au Pénata. Donc, après qu'il ait fait M'appelle Mohamed Ali, qui a compris le truc, il est parti faire Kaeda en retour au pays natal de Aimé Césaire. Et quand il a terminé Kaeda en retour au pays natal de Aimé Césaire, il est parti faire sonner la boutoncie sueur, encre, salive et sang. Donc cette relation-là qui est partie de moi, moi qui lui écris un texte, ça lui a emmené vers mes maîtres, Sony et mon grand maître Césaire. Et c'est très clair, la chose au fait, elle est là. Sans, moi, au début, je ne lui ai pas dit qu'il y a du Césaire, il y a du Sony. Lui, il connaissait très bien parce qu'on s'est rencontrés. Depuis 2001 qu'on est potes et que je vais souvent à son festival et qu'il connaît un tout petit peu mon écriture parce qu'on en parle souvent, il sait très bien comment je lui ai plusieurs fois parlé de Sony. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut entendre comme étant un aîné. Mais une fois qu'on rentre dans la langue, on se dit « les relations sont beaucoup plus
Elles sont poétiques. Triangulaires, comme ce qu'on peut voir sur scène justement sur mon théâtre de la colline. Entre vous, Sony Laboutancy et Aimé Césaire, c'est ce dispositif triangulaire qu'on a dans Antoine m'a vendu son destin, Sony chez les chiens. Mais et vous puisque... n'avez pas répondu sur l'avenir de Denis Nyanguna. Pourtant, c'est quelque chose d'important. Bah vous mettez en avant dans la présentation du spectacle.
Oh, qu'ils sont beaux, ces fils de la colère. Un océan de mal levé qui dévaste tout. Quelle magie, mes aïeux. Le peuple est vivant. Un vrai déluge de mal levé qui broute l'air et l'oxygène. En quel temps sommes-nous entrés dans ce monde ce matin? Bon, ce qui est important, c'est que... sur la question de l'avenir, je crois que j'ai déjà donné 4-5 réponses, mais je peux encore insister de manière très très explicite. Vous savez qu'avec les amis à Brazzaville, on crée le festival Mantina sur scène. C'est qu'on est en train de fabriquer quelque chose. Mais pourquoi on est en train de fabriquer quelque chose? Parce que on sort des guerres civiles, on sort d'une situation complètement désastreuse qui a tout mis au sol. Et qu'est-ce que nous, on peut apporter pour que, évidemment, pour qu'on puisse avoir un futur compétent? Pas seulement avoir un futur, parce qu'on peut avoir un futur salace par rapport à ce qu'on a planté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir un futur de qualité? Alors, donc là, toute la dimension artistique de création, de formation et de partage compte de beaucoup pour la création de ce lendemain-là qui doit chanter et non déchanter, comme avant on nous a parlé des lendemains qui chantent et qui ont fini par déchanter, et quand nous sommes arrivés on nous raconte que nous sommes la génération sacrifiée. Eh bien dis donc, c'est vous qui avez dit que le lendemain devrait chanter, au fait vous nous avez déchanté. Alors du coup, nous en sachant que le simple fait qu'on ait chanté ne suffit pas pour que, évidemment, les lendemains puissent chanter, il faut réellement avoir une conscience de quand on chante pour que, évidemment, ça ne déchante pas demain.
Oui, donc il ne s'agit pas uniquement de chanter, et on le découvre sur scène, dans Antoine m'a vendu son destin, Sony chez les chiens, dans lequel vous jouez également, Diarietou Keita. Il s'agit aussi de combattre, on ne parle que de cela depuis le début de cette émission, et ouais. Même à propos de l'avenir, de cambrioler l'avenir, c'est une de vos expressions le spectacle. Et justement pour cambrioler l'avenir, comme vous le faites aujourd'hui aux côtés de Dieudonné Nyanguna, Diarietou Keita, j'aimerais que vous nous disiez un mot, peut-être pour vous qui êtes sénégalaise, de la place d'Aimé Césaire, le Martiniquais, dans votre histoire. Est-ce qu'il résonne aussi? Est-ce qu'il s'est passé par Dido, comme vous dites, Dieudonné Nyanguna d'abord, ou vous l'avez découvert toute seule comme une grande?
Je pense que là, je vais devoir le redécouvrir parce que là, ce qu'il a dit m'a beaucoup intéressé. Mais ce que je veux dire pour faire le parallèle, c'est que justement, pour comprendre Sony, ben, je suis passée par Dido. Et du coup, ça m'a révélé aussi à moi d'une certaine manière, parce que c'était la seule manière que je trouvais de donner un sens vraiment à ce que j'avais envie de dire. Et cette manière de le dire que moi, je n'arrivais pas à trouver, je l'ai trouvé dans les mots de Dido. Et c'est ça qui me porte.
Alors, il y a un rôle de
vous
guide.
Vous portez les mots de Dido sur scène, pas ceux de Sony Laboutancy. Voilà, c'est comme ça que les choses se distinguent entre vous.
Mais c'est grâce à lui que je peux comprendre Sony. Et que j'ai compris, justement, cette manière qu'il avait d'écrire que je ne comprenais pas très bien. Et que maintenant, je comprends.
Voilà. Mais alors, il semble que vous jouiez le guide comme Césaire, a été votre guide. Et vous avez évoqué plusieurs fois le mot de rituel dans cette émission, Dieudonné Nyanguna. Est-ce qu'on peut dire que votre spectacle, qui n'est pas didactique, comme Christian Scaretti dit que sa tragédie du roi Christophe n'a rien de didactique, est-ce que votre spectacle, c'est non seulement une sorte de parcours initiatique qui démarre dans la violence et qui va vers la lumière, vers la beauté, mais peut-être même une initiation au sens le plus fort du terme, quand on est initié dans un culte à mystère, un culte secret?
Ah ben là, comme disent les Camerounais, vous posez une réponse là. C'est vraiment ça. Parce que j'allais commencer à dire que c'est une langue veillée qui finit par donner son retrait de deuil. Donc où on sort de la veillée. Parce que la première phrase quand même de Antoine m'a vendu son destin de la pièce, dans la première tirade que Sonny écrit et qu'il met dans la bouche d'Antoine, c'est « Sommes-nous sortis du monde de Riforoni ?» Et j'aimerais bien qu'on y sorte, nous. Je pars de cette phrase-là et soulignant que quand j'ai créé mon festival à Brazzaville, je fais une diversion en 2003 jusqu'à 2013 pendant que je le dirigeais, jusqu'en 2014 quand je le dirigeais encore moi, j'ai toujours ouvert chaque édition avec cette phrase. Sommes-nous sortis du monde de Riforoni? Donc c'est plus qu'une phrase pour moi, c'est un réel appel à une prise de conscience à comment évidemment on doit arriver à cet océan de main levée. À cette belle phrase qui commence, évidemment, Kaeda retour au pays natal, qui dit « Au bout du petit matin, va-t'en !» C'est rentre au Satanas. C'est vraiment cette chose-là, comme dit Chikao Tamsi dans son merveilleux poème qui à travers temps et fleuves, qui commence par là. Un jour, faudrait se prendre, marcher au levant, comme les feuilles des arbres. C'est « Au bout du petit matin, va-t'en !» C'est « Sommes-nous sortis du monde ?» Alors, tout l'enjeu de la mise en scène va être comment raconter notre quête de sortir de cette gadoula. Donc, il y a un rituel, c'est une procession qui est là. Donc, c'est une quête initiatique jusqu'à arriver, évidemment, à l'éclatement de la joie, à la sourire et à cette liberté-là où on doit désorcialiser le fétiche, cet objet qui est au milieu-là. À la fois, on le désorcialise complètement, on le met au sol-là, on met les choses à nu. Et les corps reprennent leur vie,
le dépecer,
et les corps dansent et s'expriment dans leur émoi.
Ping-pong. Et c'est déjà fini. Et vous êtes désorcialisés si tout se passe bien.
Grand merci à tous trois. Christian Scaretti, donc, vous montez au Théâtre des Gémeaux à Sceaux jusqu'au 12 mars. Cette tragédie du roi Christophe, d'Aimé Césaire. Quant à vous, Diarietou Keïta, vous êtes aux côtés de Dieudonné Nyanguna dans cette Antoine m'a vendu son destin, Sonny chez les chiens, de Sonny Laboutanci et Dieudonné Nyanguna. Mise en scène Dieudonné Nyanguna, c'est jusqu'au 18 mars au Théâtre de la Colline à Paris. Et je rappelle que vous serez Dieudonné Nyanguna à nouveau sur les ondes de France Culture chez notre camarade de jeu, Joël Gaillot, ce dimanche 26 février. Quant à Christian Scaretti, vous serez son invité le 4 mars.
Le ping-pong est un rituel radiophonique qui se pratique en équipe et quelle équipe, à la rédaction Aïssa Wendoy, Jeanne Aléos, Seam Boutata et Anna Baron, à la réalisation Thomas Beau, à la prise de son ce soir, Philippe Bredin.
Demain, ping-pong recompose une mémoire et un pays fragmenté avec la romancière franco-iranienne Mariam Majidi et le cinéaste libanais Vache Boulgourdjian.
Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec un reconstructeur d'avenir musical dont Avoinu.